À voix nue. Cette semaine, Dany Legras rencontre Elisabeth de Fontenay. Ce soir, c'est ailleurs inaccessible.
Bonjour Elisabeth de Fontenay.
Bonjour Dany.
Elisabeth de Fontenay, nous sommes dans votre appartement. C'est lui d'une intellectuelle française née en 1934, qui a consacré 40 ans de sa vie à l'enseignement de la philosophie et à l'écriture. Nous allons tout au long de cette semaine évoquer votre vie, votre œuvre, vos engagements politiques, vos passions, ainsi que les questions qui vous ont travaillé au fil des années et celles qui vous ont forgé. Vous vous êtes intéressé par la force des choses, nous y reviendrons bien sûr, à des questions graves, des questions indispensables. La destruction des Juifs d'Europe, la question juive, la communauté du vivant, notamment celle des vivants non humains. Vous vous êtes penché sur de nombreux objets d'investigation. Vous faites souvent preuve d'une extra-lucidité par rapport à la complexité du réel et vous semblez porter un intérêt particulier aux êtres fragiles, aux marginaux, à leur vulnérabilité, à leur précarité. Vous dites par ailleurs que l'animal est une figure exemplaire de laisser pour compte. Elisabeth de Fontenay, est-ce que cette enfance qui a été traversée par la guerre, est-ce que vous l'avez ressentie, ces dangers qui vous entouraient?
Ressentie ou absolument la guerre?
Oui.
Bien entendu, oui. Bien entendu. La commandante Tour occupait l'immeuble en face de chez mes parents. Mm-hmm. On les voyait sur la terrasse prendre des bains de soleil tous les jours, il faisait beau temps. Et j'avais l'expérience matérielle. Oui. Puis j'avais un père qui est rentré dans la clandestinité très tôt. Un père qui a disparu, une mère qui a été obligée de se cacher parce qu'elle était recherchée par la police allemande ou par Vichy, je ne sais pas. Et donc j'ai parfaitement fait cette expérience de la guerre, même si je n'ai pas compris, parce que j'étais petite fille. J'étais trop petite fille pour comprendre bien les choses, mais j'ai très vite compris de quoi il s'agissait quand j'ai grandi. Mais certainement, il y avait une présence permanente de l'occupation. Ce n'est pas la guerre, c'est l'occupation.
Elisabeth de Fontenay, dans votre essai « La grâce et les progrès », vous dites, bien qu'élevée dans la religion catholique et par des femmes admirables appartenant à un ordre d'obédience jésuite, j'aurais passé ma vie d'adulte à clamer que j'étais juive. Nous sommes donc en 1939, Elisabeth de Fontenay, vous avez 5 ans, et vous ignorez tout de la judéité de votre mère et des dangers qu'elle courait. Quels souvenirs gardez-vous de cette petite enfance dans ces collèges, Sainte-Marie de Passy donc, où on vous renvoyait de temps en temps, il me semble?
Écoutez, je garde un souvenir merveilleux de ce collège Sainte-Marie, merveilleux, des professeurs qui étaient très, très gentils, très intelligentes. J'étais très heureuse, j'ai eu une enfance très heureuse à Sainte-Marie. En revanche, à la maison, c'était plus difficile, parce que ma mère travaillait, Dieu merci, parce qu'elle a gagné de l'argent pendant la guerre, alors que mon père, qui était avocat, s'est occupé de plus en plus de la résistance, donc travaillait assez peu. Ma mère travaillait donc, elle était dentiste, et elle était absente de la maison trois après-midi par semaine, et j'ai vécu à la fin de la guerre, en 1944, une certaine angoisse parce qu'on m'a retiré de Sainte-Marie parce que nous sommes partis pour nous cacher, parce que ma mère était trop menacée. La Gestapo était venue à la maison. Donc c'est un souvenir réel, ça, d'enfant, mais réel. Heureusement, il y a eu Sainte-Marie. J'avais un très grand équilibre de ce côté-là.
Et pourquoi vous renvoyez de temps en temps? J'ai appris ça en lisant des textes à vous. Est-ce que vous étiez une élève un peu...
Ah, j'étais très chahuteuse, comme on disait.
Oui.
Et il y a une chose dont je suis très fière, c'est que ces demoiselles de Sainte-Marie, c'était un ordre religieux, mais on le disait, les demoiselles de Sainte-Marie, avaient dit à ma mère qu'on ne me renvoyait que 3 jours ou 2 jours parce que on me gardait quand même parce que j'avais le sens de l'honneur. Et ça me plaît terriblement. Qu'est-ce que ça voulait dire dans leur bouche? Je ne sais pas. J'avais le sens de l'honneur, on me gardait pour ça. Et on m'a gardé à Sainte-Marie alors que j'étais infernale, parce que j'étais infernale comme une enfant qui avait des problèmes à la maison. Alors, j'avais pas de problèmes familiaux, mes parents s'entendaient très bien, mais c'était, il y avait quand même un fond d'angoisse de la disparition de mon père, de la manière dont ma mère se cachait, dont on a changé, pas changé de nom, mais on s'est appelé Bourdeau. Et mon frère, quand nous étions gâchés à Boulogne, Billancourt, dans un immeuble effroyable, nous avions nos vélos et le réparateur des vélos nous a demandé notre nom. Et ma mère a dit Bourdeau, qui après tout était son nom. Et mon frère a dit, mais non maman, Bourdeau de Fontenay. C'était la catastrophe.
Votre mère, justement, Nessia Ornstein, c'est un très joli nom,
oui.
Issue d'une famille juive d'Odessa, a fait des études scientifiques.
Yiddishophone, une famille yiddishophone, parce que moi j'ai toujours été très, très pour avec les Russes et pour les Russes, et passionnée par la littérature russe, par la musique russe. Mais enfin, la langue de ma famille maternelle, c'était le yiddish. À Odessa, on parlait yiddish.
Oui. Vous le parlez, Lydie?
Non, pas du tout. pas du tout, mais enfin.
Vous n'avez jamais eu envie de l'apprendre?
Si, j'ai eu envie, si. Mais je suis très mauvaise en langue.
D'accord. Alors, votre mère, qui était donc dentiste, et s'est fait baptiser afin d'épouser votre père. Et puis, il y a cette catastrophe familiale. Les membres de la branche maternelle ont été dénoncés par lettre anonyme, arrêtés par la police française, déportés et gazés à Auschwitz. Vous n'avez donc rien su?
Ah, rien.
Rien su de la disparition?
Ça n'a jamais été dit.
Jamais été dit. De la disparition de votre
mère. Ma mère a très vite su que je le savais.
Vous pressentiez ces secrets, ces lourds secrets, et les dialogues, la vérité n'a jamais éclaté.
Non. Mais ma mère était très, très sensible à l'antisémitisme, très pro-israélienne. Elle s'est engueulée beaucoup avec la famille, quelqu'un de la famille de mon père avec laquelle nous étions extrêmement liés. La veille de sa mort, il y a eu une engueulade terrible sur Israël. C'est très compliqué à dire. Beaucoup de gens cachaient qu'ils étaient juifs à l'époque. Même après la guerre.
Vous
même
voulez dire après la guerre, oui.
Il faut le savoir.
Et pourquoi?
Je vais vous dire pourquoi. Mon amie Catherine Sellers, l'actrice... était juive, était en tournée en Israël avec le théâtre du Rond-Point et elle a vu que la chef électricienne relisait l'addition. Ils avaient déjeuné là à plusieurs. Alors, Catherine lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu relis la note? Elle a dit, c'était donc dans les années 60, 65, peut-être plus tard. Elle a dit, c'est pas par hasard qu'ils sont là. C'est pas par hasard qu'ils sont là. C'est un mot absolument magnifique. C'est le mot de l'antisémitisme français dans toute sa splendeur.
Oui.
C'est pas par hasard qu'ils sont là.
Oui.
Ça ne veut rien dire. Mais en même temps, c'est effrayant.
Oui.
Voilà.
Ça ne veut rien dire et en même temps, ça voilà. Veut tout dire.
Voilà, ça veut tout dire.
Oui. Et par rapport à ces secrets, à la disparition de votre grand-mère, votre tante, son mari et vos deux cousins, comment on vous a expliqué cette
absence ? On m'a rien expliqué. Je n'ai rien su. Je l'ai compris très tard. Mais c'est effrayant. C'est une douleur effrayante. Mais nos petits cousins, avec qui nous jouions, dans leur parc, dans leur jardin à Enghien, ils avaient une maison à Enghien. Nous jouions aux gendarmes aux voleurs. Et je m'en souviens très très bien, de même je me souviens très bien de ma grand-mère et de ma tante. Mon oncle était déporté avant. Il est mort avant, je pense. Mais je me souviens extrêmement bien d'eux. Et je n'ai jamais osé poser de questions.
Est-ce que je peux vous poser pourquoi vous n'avez jamais osé?
J'avais peur de tuer ma mère. C'est tellement effrayant d'avoir ça dans sa généalogie. J'emploie à dessein ce mot de généalogie, ce mot pompeux de généalogie. C'est ma généalogie, c'est une partie de ma généalogie. C'est tellement effrayant d'avoir ça dans sa famille, d'avoir perdu les siens dans ces conditions-là, que je ne pouvais pas, j'avais l'impression que je l'assassinerais si je posais la question. Elle ne pouvait pas me dire la vérité. Elle-même l'a su assez tard, parce que j'ai retrouvé une lettre d'elle, un échange avec sa meilleure amie, où elle disait à cette meilleure amie, « Je ne peux pas croire ce qu'on raconte. » Elle écrit ça en 1945. « Je ne peux pas croire que ce soit vrai. » Et au fond, je me disais qu'ils avaient disparu quelque part, ailleurs, qu'ils étaient vivants ailleurs.
Oui, c'était une histoire qui voilà, vous ça, confortait peut-être, qui vous racontiez à vous-même. Et qui...
Ben oui, parce oui. que je ne pouvais pas non plus me Bien représenter. Sûr. Là, pour le coup, j'étais trop jeune pour me représenter que ce qui s'était passé. Et puis.
Bon, votre père, Henri Bordeaux de Fontenay, à qui vous rendez hommage dans votre ouvrage les plus récents, a été à la fois un partisan du Front populaire, un résistant, un jacobin, un catholique fidèle et un voltairien, ainsi que les premiers directeurs de l'école.
Un catholique très, très voltairien.
Très voltairien, il faut souligner ça. Il était aussi les premiers directeurs de l'École nationale d'administration. Il est resté 17 ans à la tête de l'ENA. Quelle est l'empreinte laissée par ses pères prodigieux?
Écoutez, l'ENA, ça ne m'a jamais impressionné vraiment, parce que je ne me suis jamais représenté que je pouvais faire l'ENA, voilà, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'a impressionné le plus dans la carrière de mon père, c'est qu'il s'était engagé en 17 à 17 ans. En 17. Il avait obtenu de son père la permission de s'engager, il était reçu à son bac. Il était reçu à son baccalauréat. Il s'est engagé à 17 ans, il a dû signer pour 10 ans. Il est donc sorti de l'armée à 27 ans, en 1927. Ça m'impressionne beaucoup. Ensuite, il a fait des études de droit péniblement parce que la famille n'avait pas d'argent. La famille avait un château de famille superbe dans l'Eure, mais il n'y avait pas d'argent. Donc, il a fait des études de droit en travaillant chez un clerc d'huissier, comme clerc d'huissier. Puis, il est devenu avocat. Et il était surtout... J'en suis très fière, membre, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, de la conférence du stage. C'est un concours pour les jeunes avocats,
oui.
qui est très difficile, qui fait des avocats très très brillants. Voilà. C'est surtout de ça que je suis fière. Et puis l'essentiel, c'est qu'il a été nommé commissaire de la République à Rouen en 1945-44. C'est-à-dire que au début 44, il était dans la clandestinité. Il était commissaire de la République pour la Normandie dans la clandestinité. Il est devenu commissaire de la République à la Libération, effectivement, en 44, à la fin 44. Et ça, il était nommé là, évidemment, par De Gaulle et Michel Debré. Et il était très fier de ça. C'est-à-dire qu'il avait exigé que les élèves de l'ENA l'appellent pendant 17 ans « Monsieur le commissaire ». Et pas monsieur le directeur, oui. monsieur le commissaire, comme un commissaire de police. Monsieur le commissaire. Il n'accepte pas qu'on l'appelle monsieur le directeur. Et je suis fière avec lui de ça. Voilà.
Est-ce qu'il a pu partager avec vous les années de résistance, dans la résistance?
Oui, un petit peu. Un petit peu. J'ai des choses là, le brassard de résistant. Oui. Ah oui. Très peu, mais quand même, l'essentiel. L'essentiel.
Et comment il était? Son caractère était... Comment ?
Il était très, très drôle, un peu cruel. Je vais vous dire une chose énorme, c'était un aristocrate.
Oui.
Voilà, c'est une petite famille de nobliaux normands, mais c'était un aristocrate. C'est le seul aristocrate que j'ai connu dans ma vie.
Vous l'êtes aussi une aristocrate ? Vous avez hérité ça de votre père ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de me le dire, c'est un beau compliment. Parce que, mais vous voyez bien comment je dis ça. C'est pas parce qu'il était de bonne famille, c'est parce que vraiment c'était un homme d'honneur. C'est peut-être pour ça que si on m'a regardé à Sainte-Marie, c'est parce que j'avais le sens de l'honneur. C'est pour que ça me touche terriblement.
Oui. Vous avez, Élisabeth de Fontenay, dressé un portrait très émouvant de votre frère cadet, d'un Gaspard de la Nuit, où vous évoquez sa maladie mentale. Vous décrivez son enfermement en lui-même, l'absence de raison qui manque des mots pour s'exprimer, c'est ailleurs inaccessible. Vous menez une réflexion philosophique sur l'essor une fois de plus, des êtres privés de parole, les sans-défense, les sans-grade. En quoi l'énigme qui constitue votre frère a-t-elle déterminé vos choix dans votre existence ?
Ça a sûrement été très important parce que j'ai quand même vécu avec lui pendant... Il a quitté la maison à l'âge de 15 ans. J'en avais 18. Et on a vécu ensemble. On avait des chambres contiguës. On jouait ensemble. Je faisais tout ce que je pouvais pour l'énerver, pour le mettre en colère. J'étais effroyable. Le tableau qu'on peut faire de moi à partir de Gaspard de la Nuit est un tableau erroné. C'est une chose d'écrivain, c'est pas une chose de biographie. Et c'est absolument évident que c'est le point de départ de mon intérêt, d'abord par la maladie mentale, pour le handicap mental, mais aussi pour tous les obscurs, les sans-grades, et pour les animaux. Voilà. Alors, c'est très compliqué à expliquer. On va y revenir, si vous voulez, parce que je ne suis pas continuiste. Je ne dis pas que c'est la même chose. Pas du tout. J'ai écrit un livre auquel je tiens beaucoup, qui a pour titre « Sans offenser le genre humain ». Sans offenser le genre humain. C'est-à-dire la cause animale à fond. La solidarité avec les animaux, la continuité biologique avec les animaux à fond. Mais il y a une petite différence.
On va y revenir,
qui fait le genre humain,
on va pouvoir parler de ça longuement. Alors, il y a une phrase qui m'a attirée dans ces livres, Gaspard de la Nuit, qui m'a un peu titillée, je voudrais vous la soumettre. L'attention philosophique, parce que je pense que ça rejoint ce que vous venez de dire. L'attention philosophique à l'histoire immémoriale du pâtir animal a trouvé son origine dans une méditation sur les quasi-mutismes de mon frère. Je pense que ça rejoint
Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est ce que je pense. C'est ce que je ressens. Si j'analyse ma vie, je n'ai pas fait d'analyse. Hein. Je suis donc bout de décoffrage.
Vous êtes comme George Steiner, qui était complètement contre l'analyse. Enfin, il se positionnait comme ça. Il disait qu'il analyse, que c'était une...
Non, je ne suis pas contre, parce que dans Gaspard de la Nuit, je rends hommage aux analystes. Oui. Et je devais faire une séance avec le quatrième groupe de psychanalyse. Vendredi prochain, qui est décommandé à cause du coronavirus. Donc, les psychanalystes m'aiment bien.
Et vous, pourquoi vous n'avez jamais eu envie? Enfin,
ça coûtait trop cher.
Oui, c'est vrai que...
J'aime mieux dépenser mon argent à autre chose.
Vous n'avez jamais ressenti les besoins profonds de parler
de
par exemple, de ces secrets qui vous...
Non. Ça me dégoûtait de dépenser de l'argent pour me raconter ou pour entendre... interpréter ce que je raconte.
Pourtant, vous vous êtes beaucoup intéressé à Freud, par exemple. Vous avez beaucoup lu.
Bien sûr, j'ai une certaine culture analytique, comme tout philosophe qui se respecte. Je ne sais pas comment vous dire. C'est sûr que les analystes percent votre singularité, mais j'ai toujours eu l'idée que ma singularité était plus complexe que ce qu'on pouvait en dire. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis mise à écrire. Parce que j'ai une carrière de professeur, mais j'ai aussi, la seconde partie de ma vie, une carrière d'écrivain. J'ai commencé à écrire du reste quand j'enseignais encore. Mais j'ai préféré, au soir de ma vie, maintenant, mélanger les concepts et la biographie, ou les notations personnelles, faire ce mélange un peu sucré-salé. J'aime beaucoup le sucré-salé. Ce mélange, je préférais faire ce mélange que de faire une analyse.
Il y a une autre belle phrase dans ce livre, Gaspard de la Nuit. Vous dites « Ah, si Duras avait pu dire seulement une parole concernant Gaspard, écrire sur lui quelques lignes, son âme en eût semblé guérie ». Vous reconnaissez à la littérature un pouvoir quasi sacramentel?
Ah oui. Attention, je ne considère pas que je suis un écrivain. Ne me faites pas dire ça. Mais la littérature, l'écriture est quelque chose pour moi de fondamental, de libérateur. de libérateur, voilà, d'émancipateur et de libérateur.
Et Duras, donc, vous aimez Marguerite Duras?
Bien sûr, passionnément.
Passionnément.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle aurait pu avoir dit sur votre frère?
C'est une question, il faudrait que je réfléchisse là, à cette question. Mais je pense qu'elle aurait, elle aurait pu écrire des choses magnifiques sur mon frère. Vous savez, si je me trompe pas en disant que c'est elle qui a écrit ce texte extraordinaire sur le chimpanzé. Alors, encore une fois, je ne le mélange pas. Je ne suis pas continuiste. Je suis matérialiste, mais pas matérialiste continuiste.
C'est très important pour vous.
Ah, c'est fondamental, oui. C'est fondamental. Donc, elle avait cette capacité humaine de parler de chimpanzé comme ça, comme elle l'a fait, ce texte absolument admirable. Elle aurait pu avoir cette capacité de parler de quelqu'un comme mon frère, de la même façon. Voilà, c'est parce que c'est un grand écrivain.
Je me souviens, vous avez dit une fois qu'il y a deux livres qui vous accompagnent depuis toujours. C'est Thomas Mann, enfin deux auteurs qui vous accompagnent. Thomas Mann pour La Montagne Magique et Marcel Proust. Est-ce que c'est toujours le cas?
Ah, vous oui, aimez absolument, les... oui, absolument.
Et pourquoi ces deux auteurs? Pourquoi Les Temps Perdus et...
La Montagne Magique, parce que je l'ai lu à 30 ans et je m'en suis pas remise. Oui. C'est la complexité du réel dans toute sa splendeur. Sa splendeur. Et une attention à la maladie aussi. Quant à Proust, c'est une évidence. Je suis fascinée par sa mondanité sérieuse.
Quand vous avez écrit les livres, Gaspard, de la nuit, comment vous avez fait pour convoquer des souvenirs si lointains? Est-ce que vous avez été obligé de mener...
Ils sont revenus absolument tout seuls.
Naturellement?
Ah, absolument. J'ai rien cherché. C'est revenu. Ça a été écrit très vite. Je ne dirais pas que ça a été écrit d'un jet, mais ça a été écrit extrêmement vite. Et tout ça a été extraordinairement présent. Alors évidemment, j'ai retravaillé un petit peu sur les salopards dont je parle. Je voulais pas dire de bêtises.
Est-ce que vous pouvez préciser de qui vous parlez là?
Je ne sais plus. Vous allez me le dire.
C'est qui les salopards?
Les salopards, c'est les pichissois, les eugénistes.
Et qu'est-ce qui a déclenché? Il me semble qu'il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'écrire sur votre frère cadet?
Un sentiment de culpabilité terrible. Pour mon d'origine chrétienne, catholique, hein. Je ne me cache pas, une bonne analyse aurait fait du bon travail. Bon. Mais une culpabilité effrayante vis-à-vis de lui, parce que il vit dans une EHPAD maintenant depuis la mort de ma mère, même depuis avant la mort de ma mère, qui était en 90. Il vit dans une EHPAD près de Toulouse. Et voilà, j'ai fait ce livre sur lui, j'ai engagé ce livre sur lui, parce que j'avais le sentiment d'une dette énorme vis-à-vis de lui, parce qu'il a contribué à me construire, bien sûr, il a contribué à me construire. Et en même temps, le fait que je fasse un livre qui a eu le prix Femina, et qui soit là à vivre dans une EHPAD, il vit très bien dans cette EHPAD, mais enfin, bon, c'est affreux. C'est affreux. J'ai pris le nom pour moi. C'était lui le nom. Et j'ai le sentiment très profond que j'ai illustré mon nom. Mais que ce nom que j'ai illustré, je lui ai volé. C'est lui. J'aurais dû me marier et changer de nom. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu le faire. Et j'ai vraiment voulu prendre sa place. Et j'ai toujours pris sa place, évidemment. Pour mon père, j'étais le fils.
C'est comme ça qu'il vous considère?
Ah oui, bien sûr.
Comme la relève?
Je n'ai pas compris le mot que vous avez dit.
La relève.
La relève.
Je suis désolée.
Non, vous parlez très bien. Vous parlez sublimement.
Mais vous savez, vous dites que la seule condition pour qu'un étranger puisse se sentir appartenant, s'il a envie, à la France, C'est de bien parler la langue française.
C'est effroyable, mais c'est très juste avec vous.
Et donc ça me...
Si vous êtes vraiment brésilien, vous êtes c'est extraordinaire.
Ça me concerne et ça me parle.
C'est évidemment. Alors ça, c'est mon côté prof.
Vous étiez prof pendant 40 ans.
J'ai hérité de ma mère et de mon père un amour de la langue, de la correction de la langue, mais de ma mère aussi, parce que ma mère était terrible avec les fautes de français, mais effroyable. C'était presque un péché. C'était un crime faire une faute de français. Mon père, n'en parlons pas.
J'imagine bien.
J'ai hérité de ça comme professeur.
Merci beaucoup, Elisabeth de Fontenay. À demain.
Merci à vous, Dani.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Dany Legras avec Elisabeth de Fontenay. À voix nue, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.